Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast de développement personnel Coach Toito. Je suis Hélène Van de Waal, votre coach en développement personnel certifié. Dans les épisodes de ce podcast, j'aborde des sujets de développement personnel, de travail sur soi, sur un format court, afin que tous puissent écouter rapidement et aller à l'essentiel. J'y propose des outils, des clés pour mettre en place ou en pratique, simplement et rapidement, des débuts de réflexion ou quelques changements d'habitude. Merci pour votre écoute des épisodes précédents. Pour me soutenir et m'encourager, je vous propose de mettre des avis positifs sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou une jolie note de belles étoiles sur ma page Facebook dans la partie avis ou recommandations et je vous en remercie vraiment. Pour l'épisode de ce mois-ci, j'ai fait appel à vous. En effet, je vous ai demandé via Facebook de me poser des questions. J'y réponds donc ici. Bien entendu, le but n'est pas de répondre en quelques minutes à un travail personnel et sur mesure qui prendrait quelques séances de coaching, mais de vous donner déjà des pistes. Je vous remercie donc pour toutes les questions que vous m'avez envoyées. J'en ai sélectionné quelques-unes qui revenaient plusieurs fois. Alors commençons tout de suite avec la première question. Comment gérer un stress chronique? Bon, alors avant toute chose, il faut savoir qu'il y a deux sortes de stress. Il y a le stress que l'on appelle bon stress et le mauvais stress. Alors le mauvais stress, eh bien, c'est celui qui vous handicape, qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous paralyser. À côté de cela, le bon stress, c'est celui qui va vous titiller, vous challenger, mais vous aurez envie d'essayer quand même. C'est le bon stress. Alors on parle de stress chronique quand c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient de manière régulière et bien souvent sur les mêmes problématiques, hein, par exemple avant un entretien d'embauche, avant un rendez-vous important, avant un examen ou un stress de vous lever le matin. Bon, là on peut parler d'autre chose ensuite, ça dépend de votre situation. Mais voilà, ce stress-là, vous vous sentez handicapé, vous n'avez pas envie d'avancer, vous n'avez pas envie de tenter l'expérience, hein, pas du tout. Et vous vous sentez vraiment mal avec certains symptômes. Ça peut être des maux de tête, des maux de ventre, des rougeurs. Voilà, il y a plein de types de symptômes à identifier. Donc l'idée, premièrement, c'est d'identifier ce que vous ressentez. La deuxième étape va être d'accepter ce que vous ressentez. L'accepter pleinement, vous êtes humain, vous avez le droit d'avoir des moments plus difficiles, vous avez le droit d'être angoissé. Bien sûr, quand ça arrive de manière récurrente, c'est beaucoup plus problématique. Mais le fait d'accepter va vous permettre de gérer ce stress. Parce que lorsque l'on refoule tout ce qui est émotion négative, et notamment là on parle du stress, vous allez donner beaucoup plus de pouvoir à ce stress ou à ces émotions et d'une manière ou d'une autre, ça va finir par s'exprimer. Hein. Pour exemple, on dit toujours que le corps parle, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'on aura accepté notre état de stress, on va pouvoir agir. Si on passe cette étape de l'acceptation, que l'on refoule, que l'on ignore ce que l'on ressent, on ne pourra rien mettre en place pour gérer ce stress. Donc le fait d'accepter nous permet de réfléchir à mettre des choses en place. Alors, bien sûr, chacun est différent, chacun aura des raisons différentes de s'inquiéter, des ressentis différents. Du coup, je vais vous proposer quelques pistes à explorer. Bien sûr, c'est à essayer, tester, après il faut tout un travail là-dessus qui doit être sur mesure suivant votre personne. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir essayer de relativiser, de prendre du recul face à la situation, en se demandant, quels sont les risques? Après tout, qu'est-ce que je risque avec cette situation? Quel est le pire scénario qui puisse arriver? Sachant que ce que l'on envisage se passe rarement comme on l'a envisagé, de toute manière, et heureusement, puisqu'on envisage principalement le pire hein, à chaque fois. Donc, quel est le pire des scénarios qui puisse arriver? Une fois qu'on a répondu à cette question, on peut envisager de trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut gérer si ce scénario devait se produire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant, pour passer à autre chose, pour trouver une autre option? Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Et puis, pour terminer sur une note plus positive, on peut se poser également la question, quel est le meilleur scénario qui pourrait m'arriver? Et là, on ressort avec un état d'esprit beaucoup plus positif et des pensées positives. Alors, en parallèle de cela, il y a des méthodes, des techniques que l'on peut utiliser au quotidien pour gérer du stress. Il y a notamment la sophrologie qui allie mouvement, respiration, visualisation avec par exemple l'exercice de la bulle. Voilà, on visualise une bulle qui se crée autour de soi pour nous maintenir en sécurité. Voilà, un petit cocon de protection. Il y a le yoga. Avec certains mouvements pour dénouer des tensions, avec de la respiration et donc de la relaxation. Il y a également la méditation de pleine conscience, que bien sûr je préconise puisque c'est une de mes compétences. Il y existe des exercices de respiration, notamment la respiration abdominale en gonflant le ventre, ce qui permet de détendre toute la zone ventrale. Et voilà, ce sont vraiment des choses, différentes choses à tester, à essayer suivant votre personnalité et pourquoi pas adopter au quotidien. Alors la question suivante qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment avoir confiance en soi? Alors j'ai envie de dire, on est tous touchés par cette thématique, hein, puisque suivant les périodes de la vie, eh bien, on peut tous rencontrer le problème d'un manque de confiance en soi. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est un travail quotidien. En effet, c'est quelque chose qui doit venir de vous. Un travail qui doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire qu'une personne extérieure ne pourra pas vous donner confiance en vous. Seul vous, de par vos actions, de par votre état d'esprit, pourrez regagner cette confiance en vous. Alors pour cette question, je vais vous rediriger vers l'épisode 2 de ce podcast. J'arrête de me dénigrer. Eh bien oui, on est avant toute chose notre propre critique. Notre autocritique et la manière dont on se parle avec nos petites voix automatiques, nos petites voix internes, eh bien, n'aide pas à avoir confiance en soi la plupart du temps, hein, puisqu'on est assez critique, comme je le disais, et négatif avec soi-même. Donc, comme je disais que c'est un travail interne, l'idée, la première idée, c'est de travailler sur son langage interne et donc de modifier la manière dont on se parle, d'être plus doux avec soi-même est beaucoup plus positif. Et là, donc, je vous renvoie vers le podcast 5, enfin l'épisode 5, Agir sur nos pensées pour eh bien, voir comment prendre du recul par rapport à ces petites voix, par rapport à ces pensées négatives. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'être plus gentil avec vous-même. Et puis, puisque c'est en forgeant que l'on devient forgeron, l'idée suivante, eh bien, ça va être de tenter des choses, de sortir de sa zone de confort, de faire des choses un petit peu différentes de ce que l'on fait habituellement, de faire des nouvelles choses. Alors bien sûr, des petites choses simples, accessibles, faciles à faire pour vous, mais que vous ne faites pas habituellement. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire des choses et finalement, eh bien, vous allez petit à petit prendre confiance en vous. La question suivante portait sur mes ateliers. Comment se passent les ateliers que je propose? Alors, on commence toujours avec un petit peu de théorie, mais de manière très rapide pour vous apporter quelques notions de base. Mais l'idée dans ces ateliers, c'est surtout d'insister et de privilégier les échanges. Donc, entre les participants, d'instaurer une dynamique pour que chacun puisse raconter, faire partager son histoire et son expérience. Et du coup, j'amène un coaching en direct pour chacun. Et puis, les autres peuvent s'inspirer de ce que je réponds par rapport à la situation de l'autre. Et bien souvent, il y a une entraide qui s'installe aussi, puisqu'il arrive bien souvent que les participants échangent des tuyaux entre eux, des idées, des clés, et c'est fort sympathique d'observer ce phénomène. Voilà, donc j'apporte également quelques outils à appliquer à votre propre situation et à mettre en place dans le quotidien. Et mon but donc est de créer cette bulle, cette parenthèse hors du temps où les participants prennent soin d'eux finalement en réfléchissant à leur propre situation. Alors, comment ne pas crier et punir mon enfant en cas de crise de colère? Alors, déjà, se poser cette question, c'est déjà un premier pas, c'est déjà une belle prise de conscience, puisque bien souvent, c'est le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est de crier, de punir, de se décharger de ces émotions négatives que l'on ressent. Mais on peut faire autrement. Alors bien sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant. Là, on est dans le cas d'un jeune enfant qui ne sait pas encore maîtriser ses émotions. Il y a des périodes où voilà, l'enfant s'exprime en criant, en étant en colère, voire en se roulant par terre. Voilà, on est forcément confronté à ce genre de choses lorsqu'on a des enfants en bas âge. Alors, il faut savoir que le cerveau de l'enfant, du jeune enfant, n'est pas capable de gérer ses émotions, notamment les fortes émotions négatives, et donc la colère, par exemple. Et du coup, eh bien, ça va être à vous de gérer pour vous deux. Et en sachant cette incapacité du cerveau de l'enfant à gérer la colère, eh bien déjà ça vous permet une prise de recul en vous disant cela. Et du coup, c'est à vous de le protéger de sa colère. Voilà. Alors du coup, quitte à prendre 2 minutes au calme pour vous, en vous ayant assuré eh bien, que l'enfant est en sécurité, qu'il ne risque rien, voilà, n'hésitez pas à vous isoler un petit instant pour pouvoir souffler, puis revenir après cette prise de recul. Alors, l'idée, ça va être d'oublier le réflexe naturel de réagir avec votre propre colère, puisque l'on réagit de manière miroir, hein, on a des réactions miroir face à la personne qui est face à nous, là notamment l'enfant qui est sujet à une colère terrible, eh bien, notre cerveau va réagir de manière miroir et donc on va ressentir de la colère et peut-être de l'impuissance également. Et du coup, le premier réflexe va être punition. Eh bien, l'idée, ça va être d'avoir un réflexe, en tout cas, amour et protection, le réflexe câlin, le réflexe apaisement. Voilà, c'est tout un état d'esprit à retravailler, mais qui ne peut pas forcément se faire à la seconde près. Donc la prise de recul pendant un instant peut permettre d'avoir ces pensées-là et d'avoir un réflexe différent. Vous pouvez notamment, pendant le temps où vous essayez de prendre du recul, faire quelques exercices de respiration pour détendre toutes les tensions que vous ressentez dans votre corps, et puis revenir là à l'instant présent et plus dans vos pensées négatives et de colère. Une fois le calme revenu et l'enfant apaisé, eh bien là vous allez pouvoir peut-être échanger avec lui, discuter, lui expliquer ce qui s'est passé, lui demander ce qu'il a ressenti et pourquoi pas instaurer quelques règles de vie. Il faut savoir que pendant la colère, l'enfant n'est pas du tout réceptif et pas du tout ouvert à la discussion. Il ne va pas être capable de comprendre ce que vous lui dites et de répondre à vos attentes. Donc une fois le calme revenu, l'enfant va être capable de comprendre. La seule chose qu'il ne comprend pas, ce sont ses propres émotions. Je vous redirige cette fois-ci vers l'épisode 9 du podcast, La pleine conscience. Celui-ci pourra vous aider eh bien, à souffler, à calmer vos propres colères pendant ce petit laps de temps avant de revenir eh bien, prendre soin de votre enfant. La dernière question que j'aborderai aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment être heureux? Vaste sujet. C'est un travail de tous les jours, on y travaille tous, hein, moi y compris, vous également. Bien sûr, c'est le but de la vie, c'est être heureux. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. L'idée, c'est de mettre bout à bout toutes les petites choses positives, y porter attention, être dans l'instant présent, reconnaître ce que l'on a, apprécier ce que l'on a, et ensuite travailler à améliorer nos différents domaines de vie. Donc il va falloir veiller à trouver votre épanouissement, vous sentir épanoui, à rester en accord avec vos valeurs, être vigilant sur votre entourage, hein, choisir de qui on s'entoure, trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, prendre soin de soi sans culpabilité. Et là, je vous renvoie à l'épisode 7 de ce podcast, Vivre l'instant présent, avec l'épisode 9 sur la pleine conscience. Avoir des projets, des objectifs, des buts, même tout petits, ça va vous permettre d'être enthousiaste et d'avoir de la motivation, de vous enrichir personnellement. Veillez à avoir des déconnexions ponctuelles de tout ce qui est réseau, médias, qui apportent beaucoup de négativité. Ne pas donner de pouvoir à vos pensées négatives, hein, également. Et là, je vous reporte à l'épisode 4 du podcast sur la façon de penser. Voilà, c'est beaucoup de petites choses à mettre en place et il y a tout un travail général à faire autour de ça et ça dépend, eh bien, encore une fois, de votre personnalité. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de clés, de mots-clés dans ce que je viens de dénoncer. À vous de voir ce que vous pouvez améliorer, vers quoi vous avez envie de tendre et de travailler. Voilà pour ce mois-ci, un épisode un petit peu plus long qu'à l'accoutumée, avec plein de choses, plein d'informations. Cet épisode marque les 1 an du podcast Coach Toito. Si cela vous a plu, dites-le moi et je referai ce genre de questions-réponses à l'occasion. Si besoin d'aide pour aller plus loin et mettre en application les outils donnés dans les podcasts, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je travaille en cabinet, mais également à distance par téléphone ou Skype. Je peux donc vous accompagner quelle que soit votre situation géographique. Je propose également des ateliers de groupe. N'hésitez pas à me contacter pour vous informer. Pensez à liker la page Facebook Hélène Vandewalle en un seul mot.coach pour être tenu au courant des événements, ateliers, mise en ligne des épisodes du podcast, etc. Je vous retrouve sur le site internet pour faire plus ample connaissance, www.hélène-vandewalle.coach. HV, mes initiales, tiré du milieu coachdevieenunseulmot.fr. Si vous avez aimé ce podcast, alors laissez-y une note, un avis. Cela m'aiderait à continuer ce podcast grâce à votre soutien. Vous retrouverez les épisodes précédents sur le site internet, à la page podcast. Je vous dis à très bientôt avec le prochain épisode et prenez bien soin de vous.